Il semble qu'il y ait une certaine crispation sur le plan religieux depuis quelques années. Il y a une trentaine d'années, on pouvait, par exemple, tourner un film légèrement critique ou ironique sur la vie de Jésus, sans encourir les foudres des uns et des autres. Je pense à la vie de Brian, des Monty Python, il y a une trentaine d'années. On pouvait également publier un livre un peu ironique sur la Bible, livre ironique mais talentueux, La Bible selon Kavanagh, sans que cela ne provoque des manifestations. Et je citais Kavanagh car c'est un homme qui travaille à Charlie Hebdo. Bon. Or, aujourd'hui, qu'il s'agisse du christianisme ou de l'islam, il semble qu'il y ait une plus grande sensibilité aux critiques. Les uns parlent d'islamophobie, les autres de christianophobie. N'oublions pas que le mot phobie, qui dérive du grec, a un double sens, le sens de peur et le sens de haine. Si vous êtes xénophobe, vous avez une haine de l'étranger. Mais si vous êtes claustrophobe, vous avez une peur de la foule et vous restez isolé. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a à la fois une haine, une crainte. On l'a vu à propos d'une pièce de théâtre au Théâtre de la Ville à Paris, où l'on voit un homme incontinent devant une image du Christ. Et cela a semblé choquant à certains chrétiens. Les uns sont intégristes, proches de la fraternité Saint-Pie-X de Monseigneur Lefebvre et de ses successeurs. D'autres sont traditionnalistes sans être intégristes. On a vu d'ailleurs une très grande prudence dans les réactions, aussi bien les réactions de la ville de Paris que celles de l'épiscopat français. À l'évidence, qu'il s'agisse de responsables politiques ou religieux, il n'y a peut-être pas une unanimité et donc on est prudent dans les commentaires. En ce qui concerne l'attentat contre le périodique Charlie Hebdo, ce périodique est habitué à la provocation. On se souvient qu'après la mort du général de Gaulle en 1970, il avait titré Balle tragique à Colombey, un mort, par allusion à un incendie dans l'Isère à Saint-Laurent-du-Pont qui avait fait plus d'une centaine de morts. Certains avaient été profondément choqués. Là, il s'agit de transformer le prophète Mohammed en rédacteur en chef et donc de faire un numéro un peu ironique sur l'islam. Là encore, certains musulmans ont été choqués, d'autres ont préféré ne rien dire et il y a eu une action violente sous la forme d'un incendie des locaux du journal. En même temps, l'immense majorité des musulmans de France sont parfaitement pacifiques, mais certains ont été quand même choqués. En ce qui concerne l'action un peu musclée au Théâtre de la Ville, l'immense majorité des catholiques de France est parfaitement pacifique, mais certains ont aussi été choqués. Donc, je crois que derrière l'ensemble de ces événements, il y a une sensibilité plus forte en matière religieuse, parce que nous sommes dans une période de retour à l'identité, que ce soit sur le plan politique ou religieux. On a vu des pays très tolérants, comme la Norvège, manifester parfois des comportements un petit peu inattendus avec ce terrible attentat. En Norvège, l'été dernier, on a vu des pays comme la Hollande, comme le Danemark, demander une sorte de retour à l'identité nationale et pourquoi pas religieuse dans des vieux pays chrétiens. On a vu un pays comme la Grande-Bretagne, foyer du communautarisme, prendre ses distances avec ce modèle et dire qu'il fallait peut-être respecter la société britannique dans ce qu'elle est et ne pas vouloir à tout prix multiplier les ghettos culturels ou religieux. On a vu la chancelière d'Allemagne, Madame Merkel, dire que le multiculturalisme n'était peut-être pas la solution. Alors, dans ce contexte de crise économique et sociale terrible que nous constatons actuellement, probablement les passions peuvent être exacerbées.
Il se pose beaucoup aujourd'hui la question de la liberté d'expression, justement par rapport à la religion. Est-ce que justement cette liberté d'expression, par essence, doit être totale ?
Il faut beaucoup nuancer parce que on a représenté au mois d'avril dans une exposition à Avignon le crucifix près de l'urine. Bon, ben naturellement, si on avait fait pareil avec une effigie du prophète ou de Moïse, jamais cette exposition n'aurait eu lieu. De même au théâtre de la ville, si on n'aurait jamais pu représenter le prophète ou Moïse devant un homme, un continent. Je crois même qu'il serait aujourd'hui difficile de représenter à Paris la pièce de théâtre de Voltaire Mahomet, qui critique fortement l'islam, pour aussi quelque part critiquer le catholicisme, mais à l'époque c'était interdit. Il semble bien que la liberté d'expression trouve certaines limites. Alors, effectivement, on a deux principes assez contradictoires. D'une part, la liberté d'expression, et d'autre part, le respect des croyants. Et j'ajouterai le respect des incroyants aussi, parce que ils ont droit au respect, qu'il s'agisse de francs-maçons, qu'il s'agisse de personnes athées ou agnostiques. D'une certaine façon, concilier la liberté d'expression et le respect des croyants, c'est difficile, parce que l'art a toujours progressé avec un certain irrespect. Or, la religion, elle est fondée sur le respect. Deux principes différents et parfois contradictoires à concilier, ce n'est évidemment pas facile.
Justement, lorsque l'on voit les réactions des responsables religieux, autant côté catholique que musulman, face aux deux événements de ces derniers jours à Paris, ils condamnent la violence, l'excès, mais en même temps, ils rappellent que, justement, il y aurait des limites dans la liberté d'expression, dans le fait de ne pas, justement, offenser les croyants. Est-ce que les gens, finalement, qui dérapent, ne se sentent pas dès lors autorisés à déraper ?
Toute liberté a forcément des limites. Une liberté absolue n'a aucun sens, car la liberté de chacun s'arrête au moment où la liberté des autres est compromise. Comment faire ? Comment faire pour exprimer librement son opinion sans que certains ne se sentent stigmatisés, voire humiliés par des représentations théâtrales ou des caricatures. On se souvient de l'affaire des caricatures de Mahomet il y a 5 ans. C'est extrêmement délicat. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très délicate, d'autant qu'à Paris, dans les semaines qui viennent, il va y avoir des représentations problématiques ou qui risque de susciter quelques difficultés. Je pense à la pièce de Rolf Hochschult, Le Vicaire, qui met en cause l'attitude du pape Pie XII pendant la guerre à l'égard des Juifs, pièce de théâtre qui a inspiré le film Amen de Costa Gavras. Et puis il y a encore d'autres pièces qui peuvent choquer certains croyants chrétiens. Donc jusqu'à Noël, nous allons avoir probablement une actualité assez fournie sur ces sujets.
L'art est toujours un peu explosif. Est-ce que, du coup, l'on en arrive à s'auto-censurer dans certains milieux artistiques ?
C'est un risque, c'est un problème. Mais regardez bien le Vatican. Regardez les plafonds de la chapelle Sixtine et ses peintures merveilleuses, extraordinaires de Michel-Ange. Vous savez qu'elles ont suscité un débat à la Renaissance et qu'un pape avait même demandé qu'on recouvre certaines nudités. Donc la question de la liberté de l'art, elle est posée depuis toujours. Comment concilier liberté d'expression et respect des croyances ? Est-ce qu'on peut être guidé uniquement par le beau ? Est-ce que le beau et le bien, c'est la même chose ? Vous savez qu'en grec, un même mot, kalos, désigne à la fois le beau et le bien, l'esthétique et l'éthique. Mais dans d'autres civilisations, notamment issues du Proche-Orient, dans le judaïsme, dans l'islam, non, c'est pas pareil. D'ailleurs, la civilisation juive et la civilisation musulmane sont deux civilisations, et peut-être les deux seules au monde, où le théâtre n'a pas sa place. En ce qui concerne les caricatures, c'est un art qui, en gros, date du XIXe siècle. Or, la caricature, elle grossit forcément les traits. La caricature, elle rend un peu ridicule la personne. Et quand, en plus, dans l'islam, non pas dans le Coran qui n'en dit pas un mot, mais dans les hadiths, les propos du prophète, il y a un interdit de l'image, notamment de la représentation de la figure du prophète, effectivement, c'est difficilement conciliable avec l'art de la caricature.
Une dernière question, est-ce que l'on peut imaginer tout simplement aussi que ces individus, ces groupes, groupuscules, qui passent à des actions très voyantes, très violentes même parfois, c'est une manière aussi de se donner une visibilité?
On constate notamment qu'en ce qui concerne les manifestations au théâtre de la ville, certains manifestants appartiennent à une tendance du Front National, dite catholique intégriste, qui était illustrée par Bruno Gollnisch, et qui n'a pas gagné la candidature à la présidentielle. La candidate du Front National est Madame Marine Le Pen, qui, elle, a pris une certaine distance avec une composante trop traditionnaliste ou intégriste du catholicisme. Donc il peut y avoir une forme de revanche, mais soyons prudents. Soyons prudents, car tous les manifestants au théâtre de la ville n'étaient pas forcément des catholiques intégristes. Il pouvait y avoir des gens traditionnels, mais pas intégristes. De la même façon, j'ai le sentiment que dans les caricatures de Charlie Hebdo, qui au demeurant est une revue qui a beaucoup de talent, il y a des gens, des musulmans, qui ont été choqués et qui n'approuvent pas pour autant l'action violente menée au siège de ce journal. Donc les croyants de l'une ou l'autre des religions ne sont pas forcément unanimes sur ces plans-là.
À chaque fois aussi, on ressort, disons, le discours sur la laïcité à la française. Ça vous semble de bonne guerre?
Alors, qu'est-ce que la laïcité? Il n'en existe aucune définition juridique précise. Je rappelle que laïcité, ça vient de laos, qui en grec veut dire la foule. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est sans arrêt question de Jésus et des foules, quand il vit les foules, Jésus s'adressa à eux. C'est le discours des Béatitudes, c'est laos, laoi. C'est-à-dire, en réalité, la laïcité, c'est le plus grand nombre, le respect du plus grand nombre, le respect de la foule. Mais la foule, elle est elle-même variée, elle est elle-même bigarrée. Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase du grand poète Paul Éluard, qui parle de la foule immense où l'homme est un ami. La foule immense où l'homme est un ami, c'est aussi la foule des évangiles, mais c'est aussi la foule de ceux qui croient au ciel et de ceux qui n'y croient pas. Et il faut respecter cela.
En tout cas, on est frappé de voir que ces événements se sont déroulés, je dirais, dans les mêmes jours où se tenait à Assise la commémoration, quelque part, des 25 ans de cette première rencontre voulue par Jean-Paul II, où là, des religions du monde entier se sont retrouvées.
C'est peut-être pas totalement un hasard d'ailleurs, mais en même temps, vous avez vu que le pape Benoît XVI a pris certaines précautions pour bien dire qu'il ne s'agissait pas de prier ensemble un même Dieu, puisque la notion du même Dieu n'aurait pas de signification dans la diversité extrême des religions, mais qu'il s'agissait plutôt d'une rencontre en vue de la paix, à laquelle participaient d'ailleurs un certain nombre de philosophes non-croyants. Mais il est vrai que par rapport à l'esprit d'Assise de 1985, tel qu'il avait été conçu par le pape Jean-Paul II, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Tibre et de la Seine, et qu'aujourd'hui, peut-être, il y a moins d'ouverture à autrui, et il y a une demande plus forte d'identité. Cela n'est pas sans relation avec les phénomènes d'immigration et puis aussi avec les phénomènes de crise économique. Honnêtement, je crois que ces événements, aussi regrettables soient-ils, doivent nous faire réfléchir sur ce qui rassemble les uns et les autres au-delà des différences. Pour bien connaître la ville de Paris depuis 63 ans, je puis vous assurer que l'immense majorité des Parisiens, musulmans, catholiques, non-croyants, sont extrêmement pacifiques. Mais en même temps, il suffit d'un petit groupe, très peu nombreux au départ, et qui ensuite grossit, pour semer une certaine discorde au sein de cette foule immense où l'homme devrait être un ami.